Bienvenue chez Perspectives de médiation, un podcast sur la prévention et la résolution des conflits.
Bonjour, bienvenue à ce tuto sur les phases de la gestion de conflits. Je m'appelle Pascal Gimperli, je suis votre expert pour la prévention et la gestion des conflits. On va voir dans ce tuto plusieurs approches pour la gestion des conflits, plusieurs types d'interventions avec des phases respectives. Mais avant cela, je voulais parler en quelques mots des quelques conditions et principes qui sont la déontologie de la médiation et qui s'appliquent à tout type d'intervention de préférence. Donc les règles, bien sûr, s'appliquent à la médiation et à une déontologie qu'on doit respecter en tant que médiateur. Ce sont les règles données par notre fédération, parfois aussi par la loi. Mais ce sont des règles bien entendu utiles et utiles aussi pour une intervention de type qui n'est pas une médiation mais qui est pratiquée dans l'entreprise avec une personne qui veut faire ce genre d'intervention. Donc on a d'abord la question de la neutralité et de la multipartialité. Dans l'entreprise, si on intervient à l'interne, c'est peut-être pas toujours évident parce que neutralité, ça veut dire que la personne qui intervient n'a aucun intérêt par rapport à la chose en question. Si c'est un conflit autour d'un projet, que cette personne qui intervient elle-même n'a aucun intérêt par rapport à ce projet. Et la partialité, respectivement la l'impartialité, ou ce qu'on préfère dire, nous les médiateurs, la multipartialité, ça veut dire je ne suis pas impartial pour dire je suis ni avec toi ni avec toi, on dit plutôt on est multipartial, je suis avec vous deux, voire avec plusieurs, s'il y en a plusieurs parties. Et c'est dans l'attitude préférable parce que on se retire pas des parties, on est plutôt avec les parties, on est avec les deux plutôt que d'être avec aucune des parties. Donc c'est une question beaucoup de posture, hein, comment on se positionne par rapport à ces dynamiques-là. Il y a le volontariat, c'est très important. En médiation, c'est toujours volontaire, on peut forcer personne à participer à la médiation. Le résultat, si on trouve un, il est volontaire, les parties acceptent si elles sont d'accord, sinon elles l'acceptent pas, hein. C'est pas comme au tribunal. C'est un élément très important aussi. Il faut bien sûr une attitude constructive, une communication constructive, une manière constructive de se comporter avec les gens. En fait, il faut que les gens soient à l'aise. Si vous intervenez avec deux collègues qui sont en conflit, s'ils ne sont pas à l'aise déjà avec vous, votre manière de faire, c'est déjà assez compliqué pour eux. Si vous, en plus, vous amenez une ambiance un peu bizarre, un peu destructive, bah évidemment, ça va pas du tout être possible de trouver des accords. La confiance, c'est très, 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 très important. La confiance vis-à-vis de la personne qui intervient et la confiance vis-à-vis du processus. Donc c'est important aussi d'être transparent. On aurait pu rajouter la transparence même ici sur le tableau. C'est important d'expliquer ce qu'on fait, qu'est-ce qui est prévu de faire, quel est le processus, on les verra tout à l'heure, pour que les gens puissent gagner la confiance. Si on débarque comme ça, on fait une séance et puis on verra, on ne sait pas trop où on va. Ça ne génère pas de la confiance vis-à-vis du processus. Et confiance pour la personne, bien sûr, ça vient avec la neutralité, la multipartialité, mais il faut que les personnes aient confiance en le médiateur ou la personne qui intervient. Et la confidentialité, très, très, très fondamentale aussi, qu'il faut que, en tout cas, en médiation, c'est comme ça, et je dirais dans tout type d'intervention, tout ce qu'on discute entre nous, ça reste entre nous. Que ce soit en bilatéral avec une seule personne ou à trois avec les deux parties en conflit, chaque fois ça reste dans le cadre où ça a été discuté. Ça c'est hyper important, ça apporte aussi la confiance. Alors passons aux phases d'intervention, je passe d'abord à la médiation classique. Et c'est intéressant de dire et de voir qu'en fait c'est une phase, une suite de phases, un processus qu'on peut absolument appliquer tel quel si vous êtes un intervenant interne à l'entreprise. Moi, j'ai eu des outils qui parlent de comment préparer des séances de gestion de conflits à l'interne d'une entreprise. On retrouve les mêmes phases. Donc, c'est une approche assez logique. Pour la médiation, évidemment, elle est un peu plus développée. On pourrait aller dans beaucoup de détails. On fait des formations entre 10 et 20 jours. Donc, vous imaginez qu'il y a un peu plus de détails que cela. Mais ça nous permet de vous dire, sur base des phases de la médiation, d'expliquer une intervention aussi à l'interne. Donc, on commence à gauche par la prémédiation, ça veut dire toute la préparation avant d'être assise à la table ensemble. Donc, il faut déjà voir qui est d'accord, parce que finalement, en fait, vous allez recevoir un coup de téléphone ou un mail ou quelqu'un vient dans votre bureau, si vous êtes la personne qui intervient. Et puis, en gros, vous avez d'abord l'écho d'une seule personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là, hein? L'autre partie, comment en fait on fait pour que ces deux, celle qui vient et l'autre qui n'est même pas informée du fait que vous avez été informé, comment on fait pour se retrouver à trois autour d'une table et tout le monde avec une attitude positive et en sachant pourquoi on est là? Voilà, donc il faut évidemment inviter l'autre partie, il faut clarifier un tout petit peu de quoi il s'agit, en fait quelles sont les règles. Les parties vont vouloir savoir, mais on vient parfois quoi, et puis comment ça va se passer, à quoi dois-je m'attendre. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit clarifier à l'avance. Il faut faire de la gestion des attentes, hein, de expectation management, donc la gestion des attentes, pour la prémédiation. Une fois ça c'est fait, on va se retrouver autour de la table, table ronde de préférence, ou en médiation, on a l'habitude de pratiquer sans table. Donc on a les trois chaises dans des angles de 90 degrés, pour comme ça tout le monde se voit, tout le monde est à équidistance, comme on dit. Et là, donc, on passe à la phase initiale. Et la phase initiale veut dire qu'on explique les règles du jeu. La personne qui intervient, que ce soit le médiateur, le facilitateur ou qui que ce soit, il explique, voilà, pourquoi on est là. On résume encore une fois pourquoi on est là. Quel est le processus? On ne doit pas aller dans les détails, mais on va leur dire, écoutez, on est là aujourd'hui, on va peut-être pas terminer, on va peut-être se revoir dans 2, 3 jours ou dans une semaine. Entre-temps, on peut un peu réfléchir, qu'est-ce qui est important pour chacun de vous. Voyez, on peut poser le cadre, hein, poser le cadre aussi pour gagner de nouveau la confiance, parce qu'avant, les parties ne savaient pas trop, chacun avait une version de comment vous comptez intervenir. Et là, on pose vraiment les mêmes bases pour tout le monde. Ça, c'est important. Même si vous avez déjà expliqué individuellement, il faut que tout le monde entende les mêmes règles en même temps. Donc, comme ça, on est tous à la même page, comme on dit. Et ça va créer la confiance pour la suite. Ensuite, on définit les thèmes. On peut aussi appeler ça les objectifs. En médiation, on appelle ça les thèmes. Donc, on collecte les thèmes. De quoi voulons-nous travailler? Les personnes vont vous dire, ouais, mais c'est l'attribution de tel et tel projet, on est en désaccord, qui va le prendre? On n'est pas d'accord sur la gestion de tel ou tel client, la communication passe mal, ou enfin, vous imaginez un peu toutes les questions qui peuvent surgir ici. Donc, on fait une liste des thèmes ou des objectifs, on peut aussi passer par objectif, ça revient à peu près au même. Avant de passer à la phase de l'approfondissement, c'est la plus importante, c'est la plus longue. Là, je dirais, là, ça devient vraiment le travail du médiateur. C'est des personnes formées pour ça, accréditées, tout ce qu'on veut, et qui ont les outils qu'il faut, parce que là, c'est la phase où vraiment on va en approfondissant le thème, on est un peu aussi dans la psychologie. Là, on va vraiment essayer de creuser le fond du problème. Ça, évidemment, si vous êtes un intervenant qui n'est pas spécialement formé, vous allez faire aussi un petit peu. On va pas, pardon, sauter de la collecte des thèmes tout de suite à sa solution. C'est factuellement pas possible. Mais en médiation, on va plutôt faire 3, 4, 5 séances qui peuvent durer 1 heure. On va vraiment creuser la chose. On va vraiment essayer de faire un changement de perspective. Et pour ça, on est formé pour ça, pour poser la bonne question au bon moment. On a des différentes manières, des approches systémiques, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont avec pour que les gens puissent mieux comprendre déjà leur propre position, mieux comprendre la position de l'autre. C'est d'ailleurs le tournant dans chaque médiation, c'est quand chacun arrive à comprendre, peut-être je n'ai pas 100% raison et peut-être l'autre n'a pas 100% tort. C'est à partir de là que les pistes vont s'ouvrir pour aller vers une solution. Une fois on est passé par là, on va vers l'accord. Donc là, on va trouver l'accord. On peut encore sous-compartimenter pour dire on a les solutions. Donc d'abord, on peut faire du brainstorming. Chacun amène des solutions. On pourrait dire ceci, on pourrait faire cela. Et là, vraiment, on note, sans critiquer, sans refuser, on prend tout. Hein, c'est la logique du brainstorming. Et avec ces différentes solutions qui sont sur la table, il y a des outils après pour dire comment on fait le choix maintenant. souvent c'est assez évident. Et c'est pour ça c'est important de faire l'approfondissement vraiment bien, vraiment en profondeur, parce que si on passe par toutes ces phases-là et on arrive au brainstorming avec toutes les solutions qui sont sur la table, le reste, si l'approfondissement est bien fait, le reste va se faire tout seul. Hein, tout seul, évidemment, entre guillemets, il faut quand même encore formuler, rédiger un accord éventuellement, etc. Mais une fois on a fait le brainstorming des solutions, ça devient très vite évident de qu'est-ce qu'on met dans cet accord. Après la phase donc de l'accord, pour conclure, et là, dans l'accord, on va noter tout ce qu'on a trouvé comme accord. On sort des différentes solutions qu'on a proposées, on sort ce qui est faisable, ce qui est possible, ce qui est bénéfique. Si possible, on va sur une solution gagnant-gagnant. On essaye, si on peut, c'est un peu magique, hein, ça a l'air d'être un peu magique, mais on essaye d'agrandir le gâteau. Agrandir le gâteau, ça veut dire plutôt de se focaliser sur le souci qu'on a, l'attribution du projet, c'est est-ce que c'est toi ou moi? On essaye d'élargir, mais quels sont les autres projets? Quels sont vos postes actuels? Qu'est-ce que vous avez envie de faire et de devenir dans cette entreprise? Vous savez, on élargit le spectre de quoi on discute. Et ça va faire automatiquement, on appelle ça l'élargissement donc du gâteau. Parce que tout d'un coup, il y a plus de choses en jeu. Ça fait aussi qu'on a plus de gâteaux à partager. Donc ça devient plus simple. Ensuite, l'accord, il peut être oral, il peut être sur une flip chart, que même tout le monde peut signer hein, symboliquement, ou si ça concerne des choses un peu plus juridiques, si c'est la négociation d'un départ à l'amiable ou ce genre de choses, quand ça concerne peut-être beaucoup d'argent, il vaut mieux faire par écrit un accord comme il faut, écrit, vérifié par un juriste, et puis on signe. Et là, on est sûr que c'est quelque chose qui tient la route. Et puis, il y a peut-être la post-médiation, hein, la post-intervention, pour déjà définir dans l'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va revoir un peu le tout? Est-ce que peut-être dans 6 mois, on va voir comment ça se passe? Est-ce que tout le monde est toujours à l'aise avec ce qu'on a convenu? Ça, c'est pour assurer la durabilité. Voilà, ça, c'est un type d'intervention. Je pense que c'est du très classique. Hein, ça, vraiment, vous pouvez prendre ça et travailler avec ça. Après, j'ai quelque chose d'un peu plus approfondi. On ne va pas aller trop dans les détails, mais ça, c'est la phase d'approfondissement qu'on a vue avant, donc la phase la plus importante, un peu plus en détail. On peut aussi imaginer que vous faites essentiellement ça, si ça vous parle. Donc on commence par le passé, mais de quoi s'agit-il? Que s'est-il passé? Hein, vous avez ici des questions type. Après, bien entendu, il suffit pas de poser ces questions-là, écouter la réponse et noter la solution. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est des questions pour approfondir, pour provoquer des prises de conscience auprès des parties. Hein? Donc ça, c'est des questions similaires qu'on pose sur 1, 2, 3, 4 séances pendant 1 heure, 1 heure et demie. Vous voyez, donc c'est plus consistant que ça. Après, on passe dans le pourquoi. Qu'est-ce qui est important pour chacun de vous? Pour passer ensuite à la phase de déblocage, quelles sont vos attentes et besoins vis-à-vis de la situation? Donc là, on ouvre déjà la porte vers l'avenir, vers le futur, vers la solution. Et donc, on passe après, et si cela, et si cela? Quelles sont les pistes acceptables pour vous? Que pourrez-vous imaginer pour aller mieux? Ah, là, c'est typiquement des questions de médiateurs qui vont ouvrir l'esprit, qui vont donner des solutions pour être créatifs, qui vont stimuler la créativité. Et ensuite, le comment. Donc, une fois, on a dit qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut débloquer, qu'est-ce qu'on veut en réalité pour l'avenir. Et ensuite, c'est le comment. Quelles solutions on choisit ensemble? Comment on fait pour arriver à cet objectif-là? Voilà, ça c'est un peu plus en détail la phase de l'approfondissement. Il y a une méthode très intéressante qui s'appelle la communication non violente. Je vais aussi vous montrer ça. Ça c'est pour des mini-interventions. Ça vous pouvez même utiliser ça dans la vie de tous les jours. Ça a été développé par Marshall Rosenberg, qui malheureusement n'est plus en vie. Donc c'est un Américain qui a fait beaucoup de médiation autour du monde et qui a développé cette approche-là. Vous allez trouver beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup d'articles là autour, communication non violente. Et donc il a dit qu'il faut passer par 4 phases. Et c'est vraiment, vous faites les 4 phases en 1 ou 2 minutes, c'est vraiment dans la communication face à face de tous les jours. Donc si vous êtes exposé à un problème, à un conflit avec quelqu'un, plutôt que lui balancer, me dire, mais tu fais n'importe quoi, mais pourquoi tu fais ça, pourquoi, etc. D'ailleurs, le pourquoi, c'est toujours une sorte d'accusation parce que ça demande une justification. Je vous dis, pourquoi? Bah, je suis censé me justifier pourquoi je fais ça. C'est beaucoup mieux de poser la question, comment? Comment c'est arrivé? C'est beaucoup plus ouvert. comment vous êtes arrivé dans cette situation-là, les gens, ils vont être dans le réflexif, dans l'explication. Alors, quand vous dites pourquoi vous êtes arrivé là, ils vont dire parce qu'il a fait ceci et cela, vous voyez. Donc, ce n'est pas du tout la même façon d'approcher. Donc, la façon dont on pose la question a un impact très important sur l'évolution de la discussion. Donc, selon Marshall Rosenberg, communication non violente, on commence par l'observation. Par exemple, j'observe que souvent, quand tu termines un projet, il y a des rapports qui restent à conclure et puis il y a des manquements à ce niveau-là, hein, par exemple. Plutôt que dire des rapports sont mal faits et puis ça nous fait des problèmes, après tout le monde doit travailler à ta place. Voilà. On va lui dire, écoute, je constate que suite à la conclusion des projets, et il reste souvent beaucoup de travail sur les rapports à faire de conclusion. Le sentiment que ça me fait, c'est que je me sens un peu mal parce que je me sens obligé de le faire, mais je me sens un peu sous pression, vous voyez. J'exprime un sentiment en « je », je ne parle pas de l'autre, hein, on dit le « tu », il « tue ». Voilà, on ne tue pas l'autre en parlant de l'autre, je parle de moi. Quelle est mon observation, quel est mon sentiment, ensuite quel est mon besoin. On peut dire j'aurais besoin qu'on conclue plus rapidement les projets pour qu'on soit tous à l'aise et moi dans le stress pour la fin des mois. Ensuite la demande ça serait que à chaque fin de projet on se met 15 minutes, on se fait une séance pour dire qui, quoi, comment pour conclure les rapports afin de terminer les projets. Ça serait la demande. Vous voyez, c'est une façon très ouverte, très constructive que vous pouvez appliquer à tout moment. Plutôt que de peut-être brusquer l'autre, utiliser la communication non violente, c'est un processus très simple, mais très 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 efficace. Voilà donc quelques types d'intervention en situation de conflit. J'espère que ça a pu vous aider dans votre manière de fonctionner, votre manière d'éventuellement même d'intervenir en situation de conflit. Je reste bien entendu à votre disposition en cas de questions ou de commentaires et je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.